La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Tout comme moi, vous constatez qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales sont impactées par le contexte numérique et ses évolutions technologiques. Alors, la transformation numérique des collectivités locales qui se déroule sous nos yeux est complexe. Il semblerait qu'elle concerne toutes les composantes de la collectivité ainsi que son écosystème local et national. Plus que jamais, à l'heure du numérique, les collectivités territoriales sont ouvertes. Ceci étant dit, je vous propose d'aborder aujourd'hui le sujet de la transformation numérique en se concentrant sur les établissements culturels. Ils sont en effet, en matière de politique territoriale, les établissements qui sont aussi pas épargnés. Ce sont des acteurs directs de cette transformation qui entraîne une mutation digitale du monde culturel. Alors, vous vous demandez comment, peut-être quels sont les défis qui s'ouvrent à eux. Pour apporter des éléments de réponse à vos questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Pierre-Marie Bonneau, conservateur des bibliothèques de formation, responsable de la communication et des systèmes d'information, ainsi que chef de projet BNR, réseau des médiathèques de la ville du Mans. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'intitule « La transition numérique des établissements culturels » édité par Éditorial Éditions. Bonjour Pierre-Marie.
Bonjour Anne-Laure.
Alors Pierre-Marie, avant d'aborder le sujet de notre émission, est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama des impacts des usages numériques pour les collectivités territoriales?
Voilà une bien vaste question pour commencer. Je pense que la question d'un panorama des impacts des usages numériques pour les collectivités, ça va être un peu vaste, mais je pense qu'on peut la résumer autour de deux fonctions qu'on voit actuellement émerger de plus en plus dans les collectivités, qui sont le CDO et le DPO. Alors le DPO, pour commencer, le DPO, c'est le délégué à la protection des données. C'est celui qui va prendre en charge la sécurisation des données personnelles des collectivités territoriales et qui, en gros, en d'autres termes, va de manière transverse assurer la bonne mise en place du règlement général sur la protection des données. Le CDO, quant à lui, il est moins connu. Il ne vient pas d'une obligation réglementaire, contrairement au DPO. C'est le délégué à la transformation du numérique. Je vous épargnerai l'explication de l'acronyme en anglais, j'ai vraiment un accent très mauvais. Non seulement c'est lui qui va être chargé de l'exploitation de cette masse de données, certains théoriciens du numérique parlent de la donnée comme du nouveau pétrole produite par les collectivités, mais il va aussi impulser de manière transversale à nouveau les changements pour mener la collectivité vers la Smart City. Alors la Smart City, finalement, c'est la ville connectée. Et au-delà de toutes les questions gadgets, des questions parfois un peu futuristes ou de science-fiction, c'est vraiment une ville où la gestion se fait au plus près des besoins des usagers, au plus près des besoins réels, notamment par ce qu'on appelle le Smart Grid, qui est ce réseau de gestion de l'énergie, par exemple, qui permet de gérer au plus près des besoins d'un pâté de maison. Du coup, on voit bien dès lors qu'il y a des implications multiples derrière ces deux fonctions récentes pour les collectivités territoriales. D'une part, exploiter les données afin de rationaliser, si vous voulez, la conduite des politiques publiques pour penser la ville de demain. Et d'autre part, repenser les modes et habitudes de travail. En développant le télétravail, on a vu que derrière le télétravail, aujourd'hui, il fallait qu'on ait des DSI qui soient hyper résilientes, hyper efficaces. Et puis en désilotant, d'autre part. Parce que désiloter, ça permet finalement de limiter les redondances. Or, on sait que les masses salariales des collectivités sont une vraie question budgétaire aujourd'hui. Et évidemment, de favoriser la co-construction. Les services ne sont que plus efficaces quand ils travaillent ensemble. Évidemment, il faut s'interroger, à mon avis aussi, sur les méthodes de décision. Le citoyen doit prendre sa part dans la participation aux politiques publiques. Il doit aussi prendre part à l'expérimentation, à l'évaluation. Il faut changer notre façon de créer et de faire une politique publique, tout simplement.
Merci Pierre-Marie. Alors, si peut-être qu'on peut se concentrer maintenant sur les établissements culturels, comment cette transformation numérique, elle se traduit pour eux et quels seraient les défis qu'ils auraient à relever?
Le premier défi, à mon avis, c'est celui de la mise en ligne. Je m'explique. Derrière ce défi, en fait, on a la question évidemment de l'open data ou de l'ouverture des données publiques et la mise en conformité avec la disposition du RGPD, dont on a parlé finalement d'un point de vue plus générique tout à l'heure. Les institutions culturelles ne sont pas exemptes de ces obligations légales. Aujourd'hui, en fait, une institution culturelle, elle doit être disponible en ligne via la numérisation et via cette libération des données. En effet, on le sait, elle dispose de collections, de fonds, que ce soit les musées, les archives, les bibliothèques. Toutes ces institutions disposent de collections. Et tout le monde, que ce soit le chercheur ou le citoyen, doit pouvoir les interroger. Mais il doit pouvoir les interroger savoir à se déplacer, à remplir des papiers, à s'installer pour consulter sur place un document précieux. Il faut qu'il puisse y accéder depuis chez lui. Mais plus encore, il faut qu'il puisse accéder à la donnée sur ses collections, aux métadonnées. Il faut qu'il puisse interroger un fond. Il faut qu'il puisse interroger un ensemble thématique. De plus, on le disait là, à l'instant, c'est une obligation légale. La loi Le Maire implique que les établissements culturels, alors évidemment, sauf exception, réglementaire, mais soient disponibles pour tous sous forme brute, comme les données d'une collectivité de manière générale. Et du coup, comme ça, je prends un exemple qui va parler certainement aux plus familles d'entre nous, c'est la réutilisation des données archivistiques pour constituer un arbre généalogique. Alors, on a des fans de généalogie peut-être parmi les auditeurs ou les auditrices qui vont adorer aller voyager dans toute la France pour trouver tel certificat de décès ou tel certificat de naissance du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère. Mais on en a d'autres qui peuvent simplement avoir envie d'avoir ces informations sans savoir à dépenser un SMIC en transport. Et donc, pour ça, il faut qu'on puisse interroger tout simplement les données des archives pour constituer, par exemple, un arbre généalogique. Et pour ça, les interroger en ligne. Bon, on comprend bien entendu que tout ça, c'est pas facile, que du coup, sans rentrer dans des questions juridiques trop complexes et puis peu intéressantes, sauf pour les juristes, on a des législations et des règlements, notamment sur les communications archivistiques, mais aussi sur les questions de droit d'auteur, qui vont complexifier beaucoup la diffusion et la valorisation des fonds culturels. Je renvoie à ce moment-là aux différents rapports qui sont sortis, notamment sur les archives, qui pointent bien ça. Au-delà de la mise en ligne, et c'est finalement le deuxième défi, il ne s'agit pas non seulement de mettre en ligne, il s'agit aussi d'être en ligne. Je m'explique. Les musées, les archives, et encore plus, je pense, les bibliothèques, parce qu'elles ont une mission d'accueil inconditionnel du citoyen. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand quelqu'un rentre dans une médiathèque, aujourd'hui, on ne lui demande pas pourquoi il vient, il ne doit pas prendre un ticket, et il ne doit pas, il peut venir simplement pour s'asseoir, lire une bande dessinée, boire un café, ou même simplement se reposer, en fait, finalement. Du coup, à mon avis, aujourd'hui, les musées, les archives, et donc encore davantage les bibliothèques, elles doivent communiquer et même dialoguer avec le citoyen. Et pour ce faire, en fait, il faut investir des réseaux sociaux. Il faut déployer une communication professionnelle et apporter une réponse personnelle, la plus personnalisée possible et la plus rapide possible aux citoyens. Et c'est pour ça aussi qu'il faut se donner les moyens d'animer régulièrement ces réseaux sociaux.
C'est comme une forme de participation citoyenne, des outils de facilitation finalement.
Alors c'est ça, sauf que sur les réseaux sociaux, étant donné que ce sont des plateformes finalement qui sont privées, on va pas avoir cette construction qu'on va avoir avec la participation citoyenne sur la co-création des services. Mais en effet, on a des citoyens qui vont nous remonter des difficultés, qui vont nous remonter des demandes, qui vont nous permettre d'améliorer in fine le service.
Bah, du coup, ça me permet peut-être d'aborder la question des transformations des usages des établissements, tant en externe qu'en interne, parce qu'on comprend bien qu'il y a une transformation et que du coup, ça peut bousculer aussi. Est-ce que vous pourriez nous faire partager votre analyse éventuellement par des illustrations concrètes qui pourraient mettre en perspective un petit peu vos propos?
Alors, je vais essayer d'être le plus concret possible. C'est souvent ce qu'on me reproche. je vais tâcher. En fait, il faut bien saisir, si vous voulez, qu'il y a ces deux mouvements de mise en ligne et d'être en ligne. Ils impliquent, en effet, vous avez raison, une repensée des usages au sein des établissements culturels. Et cette transformation des usages, en fait, je vais proposer plus qu'encore un exemple, ou même avant l'exemple, une image. Si vous le voulez bien, on va prendre un cercle. Donc, ce cercle-là, un grand cercle, il va représenter les nouvelles exigences d'accès aux services publics. Donc, les questions externes. Dans ce cercle, on va mettre un autre cercle. Et lui, ce cercle-là, il va représenter les modalités d'adaptation de l'institution à cette culture numérique. Donc vous voyez bien, les deux cercles sont imbriqués. C'est les nouvelles exigences d'accès citoyennes qui vont induire des adaptations de l'organisation. Ça ne vient pas ex nihilo, si vous voulez. Dans les nouvelles exigences d'accès, donc le premier cercle, on va pouvoir dénombrer quatre grands axes. La simplification, la co-création des services, on en parlait à l'instant, et l'expérimentation et la transparence. Peut-être je peux développer très rapidement. La simplification, c'est par exemple le principe, d'un point de vue plus général, de l'administration. Dites-le-nous une fois. On n'a pas besoin de remplir des dossiers, cinq dossiers pour dire la même chose à cinq administrations différentes. Elles ont un dossier centralisé. Ça, c'est l'idée de la simplification via la dématérialisation. La co-création, on en a parlé, c'est l'idée de faire le service public avec. L'expérimentation, c'est là plus complexe, et peut-être que j'en profite pour faire de la publicité pour mon site pmbono.fr, où là j'ai travaillé sur la question de l'expérimentation et de l'évaluation, qui là implique des questions à la fois juridiques et des questions de méthode qui sont un petit peu plus complexes pour l'aborder maintenant. Mais en gros, l'idée, c'est de se permettre non seulement le droit à l'erreur, mais aussi le droit de revenir sur ce qu'on a fait. Et enfin, la transparence, là on l'a avec les données, et on l'a avec la communication, c'est le fait de donner à voir l'activité de l'établissement culturel. C'est le fait de montrer ce qu'on fait, de donner nos données, le nombre de gens, le taux de pénétration, le nombre de gens qu'on touche dans les médiathèques, le nombre de visiteurs au musée, le nombre de demandes de consultations en archives, des choses comme ça. Et il faut pas avoir peur, en fait. Souvent, les institutions ont peur que, en libérant leurs données, leurs informations, elles passent pour inutiles ou peu efficaces, ou qu'on leur reproche telle chose. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on leur reprochera bien davantage de ne pas être transparent. Donc ça, c'était nos nouvelles exigences d'accès et nos quatre axes. Et souvenez-vous, dans notre premier cercle, il y avait un second cercle, qui était les modalités d'adaptation d'organisation. Les modalités d'adaptation d'organisation, ça tombe bien, elles sont aussi au nombre de quatre. La mobilisation des équipes, je pense que là, il n'y a pas besoin d'expliciter. L'évolution des méthodes de gestion, avec toute la question, par exemple, qu'on appelle les méthodes agiles, qui permettent d'éviter les réunionites, qui sont, on le sait bien, la grande maladie des cadres de direction. La mutualisation des pratiques, là encore une fois, on reparle de la désilotisation, et l'évaluation. Donc l'évaluation avec le fait de finalement faire une expérimentation, lancer une idée de service, se donner le droit de rater. Mais pour se donner le droit de rater, il faut se dire avant de commencer qu'est-ce que je dois mesurer, pendant qu'on le fait qu'est-ce que je mesure, et à la fin est-ce que j'ai réussi, oui, non, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on réessaye, est-ce qu'on ajuste, voilà. Et c'est ça que va permettre l'évaluation. On va prendre un exemple plus concret pour y voir plus clair entre ces deux cercles d'exigences d'accès et de modalités d'adaptation. Aujourd'hui, on a des bibliothèques, des établissements de lecture publique en termes généraux, qui sont de plus en plus confrontés à un problème majeur, qui est aujourd'hui d'ailleurs une priorité de l'action gouvernementale, c'est l'inclusion numérique. On va avoir, parce que c'est souvent la double ou la triple peine, des citoyens qui sont en situation de précarité. Ils n'ont pas d'autre endroit que l'EPN de leur médiathèque pour venir, pour remplir une déclaration d'impôt, pour remplir une demande de RSA. Parce que ils n'ont pas de smartphone, parce que c'est complexe, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur à la maison, parce qu'ils n'ont pas d'imprimante, tout simplement, même encore plus basiquement, une imprimante. Hein. C'est très difficile à trouver aujourd'hui dans une ville quand vous en avez, et a fortiori avec la crise sanitaire. Et du coup, ces populations qui maîtrisent mal l'usage du numérique, elles viennent à la médiathèque. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit des gens qui font ce genre de choses à la médiathèque, qui n'empruntent pas des documents, qui ne viennent pas pour parler culture? Est-ce qu'on leur interdit l'accès? Est-ce qu'on leur dit de se débrouiller? Je pense pas que ce soit pertinent. Je pense qu'il faut réfléchir aux meilleurs moyens de les accompagner et de co-créer avec eux, pour le coup, le service dont ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin qu'il y ait un conseiller Pôle emploi? Et dans ces cas-là, il faut faire un partenariat avec Pôle emploi. Est-ce qu'ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un d'un service de la ville qui s'y connaisse pour les impôts, de quelqu'un du trésor? Enfin, voilà. C'est qu'est-ce qu'on peut faire en partenariat? Parce que c'est pas le rôle des bibliothécaires de se substituer à d'autres services. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour produire et pour fournir le meilleur service? Et pour ça, on a besoin de co-créer le service avec eux. Mais vous pouvez faire cette co-création si vous formez pas les agents, tout simplement d'avoir la méthode d'animation d'atelier. C'est un travail, mener un atelier de co-création avec des usagers. Et puis du coup, vous devez aussi savoir, c'est finalement la méta-question, quelles sont les capacités de mobilisation de vos équipes? Parce que derrière cette question de co-création, vous devez mobiliser peut-être 2 personnes, 3 personnes pendant plusieurs heures pour trouver des gens qui sont volontaires, des citoyens volontaires. Vous devez finalement trouver une salle. Vous devez réunir toutes ces personnes, animer, faire plusieurs ateliers. Bref, en gros, il faut que vous sachiez si vous avez les moyens et les motivations de le faire. Et c'est pour ça, à mon avis, je reviens sur ce couple qui me semble essentiel. Si vous voulez innover, si vous voulez entrer dans la culture numérique et répondre à la fois aux exigences d'accès et à l'adaptation de l'organisation, l'expérimentation et l'évaluation sont essentielles.
Pierre-Marie, notre émission va toucher à sa fin. Donc, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes conservateur de bibliothèque de formation, responsable de la communication et des systèmes d'information, ainsi que chef de projet BNR Réseau des médiathèques à la ville du Mans. Et vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'intitule « La transition numérique des établissements culturels » qui est édité par Territorial Éditions. Merci, en tout cas, de vous être prêté à l'exercice.
Merci, Laure, de votre invitation.
Je vous en prie. Quant à vous, chers auditeurs, alors j'espère que nous avons amené des éléments de réponse à vos questions que, comme vous, vous vous posez sur la transformation numérique des établissements culturels, sujet encore très ouvert, vous l'avez bien compris. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.